Et dans le cadre donc de cette journée spéciale pour les Afghanes, Léa Salamé, vous recevez un invité exceptionnel ce matin, le président de la République, Emmanuel Macron.
Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation en cette journée exceptionnelle qu'organise France Inter pour les femmes afghanes. Nous ne voulons pas les oublier, nous ne pouvons pas les oublier et nous serons à leur côté toute la journée sur Inter. Monsieur le Président, un mois et demi après la chute de Kaboul aux mains des talibans, diriez-vous qu'une trappe s'est définitivement fermée sur les femmes afghanes ? Comment définiriez-vous leur situation aujourd'hui ?
Alors, je veux croire que non, mais je pense qu'on doit tous regarder la situation en face. La situation est terrible pour les femmes afghanes aujourd'hui. Et donc, plusieurs d'entre elles ont pu fuir leur pays, et la communauté internationale les y a aidées autant qu'elle l'a pu. On y reviendra sans doute. Et la France y a contribué au maximum de ce que nous pouvions faire. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui, ces dernières années, ont pu avoir accès à l'éducation, au sport, à l'art, qui d'un seul coup ont vu toutes les fenêtres se fermer et les portes se fermer. Et je pense qu'il ne faut avoir aucune naïveté. Ceux qui pouvaient croire que les talibans seraient plus libéraux ont une réponse.
Vous ne pensez pas ? On a beaucoup entendu, après la chute de Kaboul, dire « on va avoir un gouvernement plus modéré, les talibans sont devenus plus inclusifs », c'était le mot à la mode. Vous ne croyez pas qu'ils ont changé ?
Je constate aujourd'hui, si j'essaie de regarder les choses, que d'abord, nous sommes obligés de constater que les Afghans ne les ont pas combattus. Ça a été dit par beaucoup de gens dans cette période. Les talibans sont des Afghans. Je pense qu'on ne doit pas l'oublier, parce que cette situation est complexe, ce à quoi nous sommes confrontés. Les Afghans ne les ont pas combattus, parce qu'il y avait aussi une situation de corruption, un affaiblissement de l'État, des guerres larvées depuis tant et tant de temps, que la situation avait épuisé sans doute beaucoup de gens. Ils sont arrivés. Ils amènent une forme de stabilité apparente dans le pays. Mais le prix de cette stabilité, c'est un obscurantisme. Et donc aujourd'hui, en effet, les femmes afghanes se voient fermer les portes de l'école, nous l'avons vu. Elles se voient retirer les droits qu'elles avaient réussi à conquérir ces dernières années. Et donc je crois que notre devoir, c'est par la pression internationale que nous pouvons exercer, tout faire pour que dans les conditions que nous mettons pour reconnaître justement les talibans, puisqu'il semble que la reconnaissance internationale est un prix, et bien que la dignité des femmes afghanes, que l'égalité femmes-hommes, soit un des points sur lesquels nous insistions et qui soit une condition pour nous.
Vous parliez de l'école, c'est un des points centraux de cette régression des femmes. Les garçons ont fait leur rentrée à l'école il y a 15 jours, ce n'est pas le cas des femmes. Les talibans ont dit elles pourront revenir à l'école sans préciser ni de date ni de calendrier. Qu'est-ce que la France peut faire concrètement, Monsieur le Président ? Est-ce qu'on va assister impuissant à l'exclusion des filles afghanes de l'école ?
Nous allons avoir dans quelques semaines un G20. Nous allons parler Afghanistan. Nous devons absolument... Nous 20, c'est-à-dire les Européens, les Américains, la Chine, la Russie, les grandes puissances aussi d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique latine réunies, avoir un message très clair où nous posons nos conditions pour la reconnaissance des talibans.
Et c'est quoi les conditions ?
Et donc les conditions, je vais vous dire clairement, la première pour moi, c'est que les talibans nous permettent de continuer les opérations humanitaires.
Aujourd'hui, ils nous permettent ?
Aujourd'hui, au compte-gouttes, mais nous avons encore ces derniers jours... procéder à des évacuations par Doha de plusieurs ressortissants franco-afghans et afghans pour les protéger. Et
donc combien, Monsieur le Président ?
Beaucoup moins que pendant la période où l'aéroport militaire de Kaboul était ouvert, soyons clairs. Mais là, il y a un accord qui a été permis à l'aéroport civil avec des services qui sont assurés par le Qatar. Nous coopérons à plusieurs et donc nous pouvons encore sortir des personnes. Nous en sortons aussi par les pays frontaliers. Et donc la première chose, c'est que les opérations humanitaires puissent continuer pour toutes les Afghanes et les Afghans qu'il faut pouvoir protéger. La deuxième chose, c'est la clarté à l'égard des groupes terroristes. Ce que nous demandons très clairement, c'est que ce régime maintenant en Afghanistan soit clair sur la condamnation, la non-coopération avec tous les groupes terroristes islamistes de la région.
Ils ne le sont pas encore.
Écoutez, ils ont plutôt donné des signes en ce sens et réciproquement, si je puis dire. Mais la situation est fragile, complexe, et donc c'est ce dont nous devons nous assurer par la pression. La troisième, c'est d'avoir justement une situation en termes de respect des droits de l'homme et en termes de dignité des femmes qui soit respectée. Soyons clairs, l'Afghanistan avec les talibans, ce ne sera jamais un régime tel que nous l'entendons. Et il faut aussi que nous ayons l'honnêteté de dire que dans beaucoup de pays de la région, et d'ailleurs, nous avons parfois des relations diplomatiques avec des pays où tout ne se passe pas comme nous voulons. Il faut avoir ce respect à l'égard de la souveraineté des peuples et des sociétés.
Comme l'Arabie Saoudite, par exemple.
Il y a pas tous les même les voisins. Je parle de la situation et d'éducation des jeunes filles. Au Pakistan, il y a des régions où la situation est très tendue, d'ailleurs sous l'emprise de certains talibans et de groupes comparables, et où donc les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école comme elles le souhaiteraient. Donc nous devons là-dessus avoir une exigence qui est le respect des droits humains, et en particulier de la dignité des femmes, soit respectée.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elles aillent à l'école? Pour qu'on puisse reconnaître le régime des talibans, il faut qu'ils acceptent que les filles aillent à l'école?
Quand vous me posez la question très clairement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'on leur dit, vous devez absolument donner un avenir aux jeunes filles dans votre pays, et ça fait partie des choses qu'on regarde avant de vous reconnaître. Et je pense que ce qui a de la valeur, c'est pas ce que la France fait seule, c'est ce que nous pouvons faire au maximum en tant que communauté internationale. Et c'est de convaincre tous les Européens, là nous sommes tous sur la même longueur d'onde, évidemment les Américains également, mais c'est de pouvoir convaincre, y compris les puissances de la région, ou des puissances qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous sur tous les sujets, d'agir ensemble pour exercer cette pression. Et ça, je pense que, un, c'est possible qu'on se mette d'accord à 20 sur ces sujets. Deux, c'est efficace. Parce que les talibans attendent une reconnaissance internationale.
Mais la France ne reconnaîtra pas, les talibans ne reconnaîtra pas leur régime tant que les filles n'iront pas à l'école. Vous pouvez
nous dire ça?
C'est
un des sujets, je peux vous le dire très clairement, puisque c'est un des sujets que nous avons, nous, dès le début.
Il y a l'affaire de l'école et il y a aussi la question du travail. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se terrent, elles ont peur, elles vont plus travailler, ou alors on leur a expliqué que c'était pas la peine de revenir au travail et qu'il vaut mieux qu'elles envoient leur mari ou leur frère. On a lu sur Inter une lettre déchirante d'une jeune afghane, Aïcha, qui lance un appel à la France et à la communauté internationale. Ne vous laissez pas berner par les mensonges des talibans qui en fument les médias. Ne voyez-vous pas qu'ils ne tiennent aucune de leurs promesses? Qu'est-ce que vous lui répondez? Il faut faire confiance?
Non, mais pas. Qui suis-je pour dire ça?
Vous êtes le président de la France?
Non, mais je veux dire, à une jeune femme qui m'interpelle et qui vit là-bas, je ne vis pas ce qu'elle vit, je n'y suis pas. Ce que je dis, c'est deux choses. Je n'ai aucune naïveté, je n'en ai d'ailleurs jamais eu aucune, si vous m'avez bien entendu, depuis le début, à l'égard des talibans. Mais je sais aussi que nous pouvons faire pression en tant que membre éminent de la communauté internationale, membre permanent du Conseil de sécurité, grande puissance européenne, mais nous ne pouvons pas nous substituer à la souveraineté d'un peuple. Et donc une chose est de dire, je condamne, je mets des conditions, j'essaie de faire bouger les choses depuis l'extérieur, mais il faut être aussi clair sur le fait que je ne vais pas changer le régime taliban. La France n'a pas les moyens de le faire, ne le fera pas. Et je vous invite d'ailleurs à voir qu'en 20 ans, les États-Unis d'Amérique, avec une coalition internationale, n'y sont pas parvenus. Et donc, mais ça dit quoi? Ça dit que nous devons tous regarder, nous, la réalité des choses. Nous voulons faire avancer nos valeurs. Nous devons le faire par une cohérence de la communauté internationale, une exigence, mais aussi l'articuler avec le respect de la souveraineté des peuples. L'histoire et la géographie des peuples sont des irréductibles. Et parfois, il se peut qu'il se passe dans certains pays des choses que nous pouvons condamner, mais auxquelles nous ne pouvons pas totalement tout changer.
Mais vous le dites vous-même, 20 ans après le 11 septembre, malgré 20 ans de présidence occidentale, de ce qu'ont fait les Américains, avec dans une coalition où la France a participé, nos soldats sont morts. Est-ce que c'est un immense échec? Au fond, est-ce que toutes nos opérations extérieures, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Sahel aujourd'hui, ne sont pas vouées à l'échec? Est-ce qu'il faut y renoncer, tout simplement? Est-ce qu'il faut quitter le Sahel? Est-ce qu'il faut arrêter d'intervenir à l'extérieur?
Alors, je crois profondément que non, mais je voudrais distinguer ces situations. La situation en Afghanistan, c'est d'abord un choix fait par les États-Unis d'Amérique, compte tenu du fait que les Afghans ne voulaient pas livrer les terroristes des attentats que les États-Unis avaient subis. La France est intervenue comme alliée, avec l'esprit de solidarité d'un allié.
Elle a eu raison ?
Très tôt, en 2001. C'est toujours facile de regarder l'histoire comme ça. Je pense que l'émotion était telle à l'époque, et les convictions qui nous animaient tous étaient telles, que je crois que le président Chirac a eu raison d'engager la France. Vous noterez que d'ailleurs le même président Chirac, quand il s'est agi de lancer au titre de la même solidarité une opération en Irak, ne l'a pas suivi. Il l'a fait pour l'Afghanistan en 2001, il ne l'a pas fait quelques années plus tard pour l'Irak. Et je pense qu'il a eu raison. La France a suivi comme alliée. Nous avons ensuite, à partir de 2012, enclenché un mouvement de retrait qui a été définitif à la fin de l'année 2014. Je tiens à le rappeler parce que nous ne faisons pas partie des alliés qui étaient présents jusqu'au mois d'août dernier sur le plan militaire. Nous avons ensuite fait des coopérations civiles. Nous avons même été l'un des derniers pays européens à garder une présence diplomatique et consulaire, ce qui a permis de protéger beaucoup de monde. Donc la France a tenu son rôle, son rang et accompli ses devoirs. Mais dans ce contexte-là, la communauté internationale est intervenue en substitution de la souveraineté d'un pays. C'est ça ce qui s'est passé. Et c'est là où je vois une limite. J'ai toujours dit très. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que vous ne pouvez pas accélérer l'histoire d'un peuple, d'un pays, en faisant fi d'abord de sa géographie, ensuite de son histoire, parce que c'est un pays qui a été traversé par les guerres civiles et coloniales des puissances impériales de toute la région de décennie après décennie. Et vous ne pouvez pas bâtir l'histoire d'un peuple en agissant depuis l'extérieur et en se substituant à sa souveraineté.
Est-ce que vous appliquez ça au Mali ?
Résolument, puisque je rappelle qu'au Mali, le président François Hollande est intervenu à la demande du gouvernement et du peuple malien, à la demande de tous les États de la CEDEAO. Et nous ne nous y maintenons que dans ce cadre. C'est la différence profonde de notre intervention au Sahel par rapport à ce qui a pu être fait en Libye ou en Afghanistan, où là, la communauté internationale est arrivée en substitution, en quelque sorte, au pays, à son propre peuple, à débarrasser le peuple de ses gouvernants, mais par définition, nous ne savons pas quoi proposer d'autre, nous ne sommes pas le peuple à sa place. Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali, je vous le dis très nettement. Si le président Hollande n'avait pas décidé en janvier 2013 d'intervenir avec l'opération qu'il a donc lancée, Serval, à ce moment-là, puis l'opération Barkhane, les terroristes auraient pris le contrôle, d'abord de Bamako, mais tout le pays.
Mais est-ce qu'ils ne vont pas le prendre, là, demain, le contrôle ?
Non, les terroristes ne le prendront pas, parce que nous sommes là. La communauté internationale a pu ensuite arriver, la MINUSMA est présente, les Européens sont présents à travers des opérations de formation, de consolidation des armées, et nous sommes là. Ce que nous avons décidé, en parfaite cohérence avec cette grammaire, si je puis dire, des affaires internationales que j'évoque, c'est qu'il y a maintenant 18 mois, j'ai dit aux États de la région, en particulier aux Maliens, notre présence militaire doit évoluer parce que on ne peut pas demander à nos soldats de remplacer ce qui est le travail de vos États et en particulier de votre État. Et donc ce qu'on a entamé après avoir accru notre pression militaire avec des vrais résultats et des vrais succès de nos armées, c'est un travail qui consiste à dire il faut que l'État revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali, mais aussi au Burkina. Il faut que derrière les projets se développent. Sinon, dès qu'on libère un territoire, les terroristes le reprennent, puisqu'il n'y a pas de perspective. Et donc, l'armée française n'a pas à se substituer au non-travail, si je puis dire, de l'État malien. Il doit y revenir. Et donc, nous nous reconcentrons, nous, à la fois géographiquement en termes de mission, sur la stricte lutte contre les groupes terroristes.
Monsieur le Président, je reviens à l'Afghanistan. L'ONU évalue à 500 000 le nombre de nouveaux réfugiés afghans dans les prochains mois. Craignez-vous une vague migratoire d'ampleur en Europe ?
J'ai toujours été prudent sur ce terme. J'ai alerté, si je puis dire, dans le bon ordre des facteurs, dès le 16 août, nos compatriotes. D'abord en rappelant ce que la France avait fait, ensuite en disant l'urgence est humanitaire, ensuite en disant nous devons nous organiser sur la question migratoire.
Nous devons nous protéger, vous avez
oui,
dit.
Oui, tout à fait. Et quatrièmement, en disant nous devons agir politiquement. Bon. J'ai jamais parlé de vague parce que je pense qu'il ne faut pas agiter les peurs. Aujourd'hui, on ne constate pas de vague. Ce serait faux de le dire. Aujourd'hui, il y a d'abord et avant tout une situation humanitaire en Afghanistan, dans le pays même et dans la région, qui est une situation liée à la grande pauvreté, aux déplacés et à la crise alimentaire.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
On peut aider les Nations Unies, c'est ce que la France a décidé, et le Programme Alimentaire Mondial. Et donc notre rôle, c'est d'aider les Nations Unies à aller au secours de ces populations et de permettre de les nourrir. Ensuite, il y a beaucoup de populations réfugiées chez les voisins, avec d'ailleurs des mouvements de part et d'autre, parce que vous aviez des réfugiés des dernières années qui étaient par exemple au Pakistan, qui reviennent en Afghanistan en raison de la nouvelle stabilité, qui sont des populations parfois plus rurales, par exemple, et qui, en quelque sorte, considèrent que le calme est revenu chez eux, et ils y retournent. Donc c'est beaucoup plus complexe aussi, parfois, qu'on ne voudrait le décrire. Mais il y a très clairement une pression sur plusieurs pays voisins, au premier chef l'Iran et le Pakistan. Là, ce que nous devons faire, c'est aider également les Nations Unies et le Haut Commissariat aux réfugiés pour venir en secours de ces populations. La France a ainsi pris la décision, d'ailleurs comme l'Allemagne l'a fait, d'investir et de réengager de l'argent, 100 millions d'euros, en soutien des agences des Nations Unies pour cette situation.
Mais le fait que dès le lendemain de la chute de Kaboul, le débat est immédiatement porté sur la crainte des flux migratoires, est-ce à dire qu'il y a une crainte identitaire, une crispation identitaire très forte aujourd'hui en Europe, en France, qu'on a peur et qu'on se referme.
Écoutez, moi j'ai d'abord vu le formidable élan de solidarité qu'il y a eu pour accueillir les femmes et les hommes qui devaient être protégés, parce qu'ils étaient combattants ou combattantes de la liberté, ou tout simplement parce qu'ils étaient dans des situations dangereuses pour eux. Et ça, c'est une chance et c'est une force. Et donc, ça, il faut que ça continue, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que le cœur de l'effort maintenant, c'est de pleinement accueillir et intégrer dans la durée ces familles qu'on a fait venir.
C'est 2600 Afghans qu'on a fait venir.
Exactement, à travers l'opération Harpagan. Et il y a aussi toutes les Afghanes et les Afghans que nous avions protégés ces dernières années. Vous savez, le travail d'accueil, c'est pas simplement de les faire arriver sur le sol français.
Comment on les intègre ?
Et c'est justement un travail, après, au quotidien, que les associations, les collectivités territoriales, les services de l'État font ensemble, mais qui demandent beaucoup de patience et d'engagement. Mais j'insiste là-dessus, parce que c'est le cœur de notre travail. C'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas simplement protégés ici, mais que progressivement, ils puissent apprendre la langue le plus vite possible, accéder à l'école et à un travail, et qu'ils puissent contribuer aussi à apporter quelque chose à la France. Parce que accueillir des femmes et des hommes dans la dignité, c'est leur permettre d'avoir cette pleine dignité par l'accès au savoir, à notre langue, à notre histoire, et au travail qui contribue à rendre la nation plus forte.
Est-ce qu'on va en accueillir d'autres dans les prochaines semaines ?
Alors, nous allons continuer des opérations humanitaires qui seront en nombre beaucoup plus réduites, compte tenu des contraintes qu'on a sur le terrain. Nous allons également le faire à travers des opérations qu'on appelle de réinstallation en lien avec les Nations Unies, qui permettent de protéger en particulier des familles et des femmes qui voudraient quitter la région. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait une organisation au niveau européen. Et par rapport à votre question, je pense que si on apprend de la crise de 2015, la clé pour répondre à cela, exactement, c'est vraiment d'être organisé en européen. Il ne faut pas agiter les peurs. D'ailleurs, regardez, le sujet aujourd'hui ne le justifie pas. C'est de dire l'Europe, c'est d'abord et avant tout une aventure politique et humaine. Et donc, nous devons être à la hauteur de nos valeurs et de ce qui nous a fait. L'Europe est un continent qui est né sur des guerres civiles et où, de pays en pays, nous savons ce que sont les réfugiés, nous, en Europe, et l'asile politique. Et donc, on ne doit jamais lâcher cette notion. Jamais. Et l'Europe a été à la hauteur de cet engagement. Nous devons continuer de l'être. Ensuite, nous devons coopérer, si nous voulons vraiment être efficaces. Coopérer pour bien intégrer les personnes que nous accueillons et coopérer pour éviter qu'il y ait évidemment des jeux où tout le monde est l'otage de chacun, en quelque sorte. Et c'est pour ça que moi, je tiens beaucoup à ce qu'on continue ce travail sur Schengen, sur les questions migratoires en Europe, qui est de savoir comment on protège ensemble nos frontières, comment on harmonise nos droits entre nous, comment on construit les éléments de solidarité et les politiques pour reconduire les personnes qui ne sont pas éligibles. Ça ne concerne pas aujourd'hui les Afghanes et les Afghans, parce qu'on parle d'un pays qui est, entre guillemets, en guerre et avec un régime très dur qui menace les gens. Mais voilà la réponse européenne.
Et la France va prendre la présidence européenne dans quelques semaines, et vous pourrez en parler. Une dernière question, je ne peux pas ne pas vous la poser, puisqu'il y a un regain de tension avec l'Algérie ces dernières heures. L'Algérie a interdit son espace aérien aux avions militaires français. Samedi déjà, Alger a demandé le rappel immédiat pour consultation de son ambassadeur en France. Ils répondent à vos propos, Monsieur le Président. Dans le Monde, il y a quelques jours, vous avez dit que l'Algérie s'est construite après la guerre sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Vous dénonciez aussi une histoire officielle totalement réécrite qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Les mots sont durs. Vous les maintenez ?
Ce qui se passe aujourd'hui est une crispation qui est la réplique de ce que nous avions connu au printemps 2020. Je rappelle, l'Algérie avait déjà rappelé son ambassadeur suite à un reportage d'ailleurs du même journaliste, cette fois-ci sur le plan audiovisuel, qui avait décrit ce qui se passait en Algérie. Donc moi, j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Après, nous avons enclenché un travail avec le rapport demandé à Benjamin Stora, la commission que nous allons lancer sur la base de ce travail, travail en profondeur avec la jeunesse française et franco-algérienne. Et donc on se dit des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes. Je ne nous ai pas ménagé avec notre propre histoire. Il y a quelques années de ça, et ça avait produit quelques troubles, enfin quelques réactions. Et j'ai été le plus franc possible avec notre histoire sur la question des harkis, et je continuerai ce travail. Quand la question m'a été posée sur l'accueil du rapport de Benjamin Stora en Algérie, j'étais obligé de dire la vérité. Le président Tebboune, on en a parlé, nous. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et il a eu des mots amicaux et proportionnés, mais la contrepartie de Benjamin Stora a eu des mots extraordinairement durs. Beaucoup de gens ont insulté, parfois menacé Benjamin Stora suite à ce rapport. On ne peut pas faire comme si cela n'était rien. Et donc, nous devons continuer de cheminer. Donc, mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager. Et je pense que simplement, nous avons trop de nos compatriotes dont l'histoire est mêlée à l'Algérie pour faire comme si de rien n'était. Et il y a trop de Françaises et de Français qui sont les enfants ou les petits-enfants de harkis, de pieds noirs, d'appelés, de militaires qui sont des enfants ou petits-enfants d'Algériennes et d'Algériens qui sont parfois encore franco-algériens. Pour ne pas embrasser cette histoire et essayer de, en quelque sorte, reconnaître toutes ces mémoires et de leur permettre de cohabiter. Moi, c'est ça ce qui m'importe. Et donc, il y aura immanquablement d'autres tensions. Mais je pense que mon devoir, c'est d'essayer de faire cheminer ce travail, parce qu'on le doit à notre jeunesse et à tant de millions de nos concitoyens. Et je pense que notre incapacité à regarder cette histoire en face dans toutes ses composantes est un peu devenue la matrice de beaucoup de nos problèmes dans la relation avec le continent.
De problèmes en France,
et
tout simplement.
Et du coup, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en jeune, je dis, c'est pas un problème diplomatique, c'est d'abord un problème franco-français. Donc on doit continuer à faire ce travail avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, parce qu'il y a, vous savez, ce ne sont que des histoires de blessures. Le problème, c'est que beaucoup de ces blessures sont inconciliables les unes avec les autres, où on construit leur histoire personnelle dans une forme de rejet d'une part de l'autre. Or, on est tous ensemble dans le même pays. Et donc, on doit avoir un projet national qui nous embarque. C'est mon travail, mais il faut le faire, voilà, en disant à chacun, vous avez votre place et je reconnais votre part d'histoire. C'est la nôtre, tout entière.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Emmanuel Macron, de nous avoir accordé à France Inter cet entretien exclusif pour cette journée pour les femmes afghanes.
Merci à vous. Merci beaucoup de continuer ce combat qui, je crois, est à notre honneur et qui est nécessaire pour les femmes afghanes et qui doit se faire dans la durée.
Emmanuel Macron enregistré hier soir à l'Élysée. Merci Léa et merci à Juliette Accus pour la réalisation de cet entretien.